SBS Radio.
Nous avons le plaisir d'accueillir sur les ondes de Radio SBS en Australie David Holofen. Bonjour à vous.
Bonjour.
David, vous nous parlez de ce long métrage, votre deuxième long métrage, Loin des hommes. Quel a été le déclic pour écrire ce scénario?
C'était très simple. C'était la lecture de cette nouvelle d'Albert Camus qui s'appelle L'Hôte, que je ne connaissais pas. Un ami m'a offert, je suis tombé sur ce texte et je suis immédiatement tombé amoureux de ce texte qui est très beau, qui est très court, hein, qui est très poétique et qui m'a beaucoup impressionné. C'était il y a quelques années et puis à partir de cette lecture-là, je me suis mis en tête d'en faire un film.
Alors racontez-nous un petit peu ce scénario sans dévoiler la fin.
Donc c'est une histoire qui se passe entre deux hommes. En 1954, en Algérie, au moment où l'Algérie, qui est encore une colonie française, bascule dans la guerre d'indépendance, en tout cas la guerre qui va aboutir 8 ans plus tard à l'indépendance de l'Algérie. Et c'est pas pour autant un film de guerre, c'est un film qui se passe sur quelques jours au moment de ce basculement. Et les deux personnages principaux sont Daru, qui est un instituteur pied-noir français d'origine étrangère, qui est joué par Viggo Mortensen. C'est un instituteur dans une école très isolée de l'Atlas. L'autre personnage s'appelle Mohamed. C'est un villageois algérien qui a tué son cousin et qui est amené à l'instituteur Daru pour qu'il soit transporté à la ville la plus proche. Parce que les gendarmes ont beaucoup plus important à faire. C'est le début des soulèvements. Et ce petit crime de misère de droit commun ne les intéresse pas. Donc ils se débarrassent de cet homme sur l'instituteur en lui demandant de faire ce travail-là, d'amener cet homme-là à la justice française, autrement dit à la mort. Voilà le point de départ qu'il y a dans la nouvelle. Voilà c'est le début du film aussi. Ensuite, c'est une très libre adaptation de cette nouvelle et le film emprunte des chemins que la nouvelle n'empruntait pas. Mais l'argument elle-même et le point de départ elle-même. Voilà.
On a le sentiment qu'on est dans un état de tension tout au long du film. On se pose la question s'ils vont arriver à leur destination vivants.
Oui, c'est un film qui marche, je pense, sur la tension. Alors, c'est pas du tout un récit, je dirais, philosophique. C'est un récit très simple, effectivement, qui est soutenu par une tension permanente, parce que en réalité, ce sont deux hommes qui sont en train de traverser un monde qui s'écroule et un monde qui se met en guerre. Et ni l'un ni l'autre de ces deux hommes n'ont de refuge dans cette guerre-là. C'est-à-dire que Daru, qui est français, n'est pas du tout vu d'un bon oeil par les pieds-noirs français, parce que il fait la classe qu'a des Algériens, parce qu'il est d'origine étrangère. En fait, on apprend qu'il est d'origine espagnole. C'est une sorte de paria, et Mohamed est également un paria parce qu'il a tué son cousin et que la famille du cousin est à ses trousses. Autrement dit, ce sont deux hommes qui n'ont aucun refuge, et c'est évidemment une situation très dangereuse pour eux, d'où la tension permanente comme vous le disiez, qui plane sur eux. Moi, ça me semble intéressant que ce soit deux parias, effectivement, qui n'ont pour seul refuge que l'entraide qu'ils peuvent s'apporter et que leur valeur morale intrinsèque. Ils n'ont pas du tout le réflexe possible du communautarisme. Ce n'est pas possible pour eux de se réfugier au sein de leur communauté. Ça me semblait une situation intéressante.
Et comme dit l'autre personnage dans le film, Balducci, on passe par un sale temps, un sale moment.
Oui, alors effectivement, bon, c'est le début de la guerre d'Algérie. Donc je dirais pas que c'est un film sur la guerre d'Algérie, c'est un film de guerre, mais c'est la toile de fond de ce film-là. Et la toile de fond de ce film-là, elle rencontre, je pense, avec un respect pour l'histoire, effectivement, de ce sale moment. C'était une sale guerre. On en voit les premières traces au cours du film, sans les dévoiler. Effectivement, le film montre que cette guerre a été sale, mais je pense que toute guerre est sale, en fait. Tout pays qui bascule aussi brutalement dans une guerre, en partie une guerre civile, c'est jamais fait de façon propre. Je pense que c'est un mécanisme de la guerre. Et oui, c'est un sale moment, effectivement.
Et donc, Daru se questionne incessamment le devoir qu'il doit accomplir, quel camp choisir. Il n'a rien contre l'indépendance. Et pour lui, sa façon de s'engager, c'est d'enseigner.
Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui, on comprend, c'est quelqu'un qui a déjà vécu la guerre. Le film dévoile le passé de chacun des personnages très progressivement et assez tard dans le film. Mais effectivement, à un moment, on comprend que Daru a fait la Deuxième Guerre mondiale, en est sorti un peu brisé et qu'il y a une sorte de refus de la violence chez lui. Et c'est un peu tragique ce qui lui arrive parce que la violence le rattrape. C'est-à-dire, il a eu beau s'isoler dans une école au fin fond de l'Atlas. L'histoire, sous la forme de ce prisonnier Mohamed, le rattrape et le remet au milieu de la violence et du tumulte. Lui, il refuse cette violence-là. Donc, il refuse de prendre parti. Il refuse de rentrer activement dans cette guerre-là. Et il estime qu'effectivement, la seule façon de s'engager dans le monde, c'est en réalité l'éducation et la transmission du savoir. C'est pour ça qu'il est instituteur. Ensuite, le film montre toutes les limites de ces raisonnements-là, humanistes, au milieu d'une guerre. Et ça, c'est quelque chose qui relie le film, je pense, au présent. C'est-à-dire que ce sont des discours qui sont à court terme complètement inefficaces. Et pourtant, c'est les seuls discours qui peuvent aboutir à des solutions à long terme. Mais effectivement, quand Daru dit ça à Slimane, qui est un ancien camarade, qui lui dit « il faut que tu choisisses un camp », quand il dit que sa façon à lui de s'engager, c'est de faire la classe à ses élèves, son discours est totalement incompris, est totalement inefficace. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, où on est dans des logiques de guerre à court terme, des logiques de violence, des logiques nationalistes, et où les discours humanistes et d'éducation sont complètement inaudibles. Moi, je pense par exemple à la gauche israélienne qui tient ce type de discours à long terme sur l'éducation, etc. Ce sont des discours qui dans la période de tension qu'il y a à la Moyen-Orient, ne sont absolument pas audibles. Bah, Daru se retrouve dans cette même situation-là. Et je pense que tous les discours humanistes, dans des périodes de grande violence, de grande tension, se retrouvent dans ces contradictions-là.
Daru est marqué par la guerre, donc cette quête pour la solitude.
Oui, moi je pense que c'est quelqu'un qui est pétri de contradictions. C'est quelqu'un qui a été marqué par la guerre, qui est allé chercher une sorte de refuge dans cette école-là, qui vit de façon très autarcique, protégée du monde. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, auprès de Mohamed, dit sans arrêt, il faut choisir la vie, la valeur suprême. C'est la vie. C'est pas Dieu, c'est pas la nation, c'est la vie. En ça, je pense que c'est Daru est un fruit de l'existentialisme de Camus. La valeur suprême, c'est la vie. Et c'est un peu contradictoire parce que c'est quelqu'un qui lui-même n'est pas complètement dans la vie. C'est-à-dire qu'à vouloir refuser le monde, à refuser sa violence, il s'est isolé. Et c'est ce que lui apporte Mohamed, ce que lui apporte ce voyage, en tout cas qu'il fait avec Mohamed, c'est que lui, il se rend compte de ses propres contradictions. Grâce au voyage qu'il fait avec Mohamed, il se rend compte que lui-même n'est pas complètement dans la vie. Il est enseignant, dans ce cas-là, oui, il est vivant en tant qu'instituteur, mais il n'est pas dans la vie parce qu'il partage rien, il n'a pas d'amour, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de système de partage. En fait, il est complètement recroquevillé sur lui-même. Et je pense que c'est le bénéfice qu'il tire de cette aventure avec Mohamed, c'est que lui qui dit sans arrêt à Mohamed, il faut choisir la vie, il faut choisir la vie, se rend compte qu'il est lui-même à moitié mort. J'ai essayé de bâtir plus que dans la nouvelle un voyage qui en fait. Qui est une chance pour les deux personnages, même si c'est un film assez mélancolique, sans en dévoiler la fin, etc. Même si le fond est assez mélancolique, ce sont deux personnages qui vont malgré tout vers la vie.
David Holofernes, on peut parler du tournage, les décors de l'Atlas, je crois, marocain, d'après ce que je comprends.
Oui, c'est censé se passer en Algérie, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais un tournage en Algérie était compliqué. C'était pas impossible. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait les autorisations, on a été très bien accueillis par le gouvernement algérien. D'ailleurs, après le tournage, on a projeté le film en Algérie, il était très bien accueilli. Le problème, c'était la sécurisation du tournage, vous en doutez. C'était possible, mais ça aurait ralenti beaucoup le rythme de tournage, et donc ça aurait demandé plus d'argent. Comme on n'était pas en surplus d'argent, comme on l'est rarement, on a été, pour des raisons malheureusement économiques et pragmatiques, obligés de tourner du côté marocain de cette même chaîne de montagnes, qui est l'Atlas saharien, qui se transforme côté marocain en Haut-Atlas. Donc on a tourné près de l'Algérie, mais côté marocain, dans cette région très aride et absolument magnifique. J'ai fait beaucoup de repérages en Algérie, donc ça m'a permis de chercher les mêmes types de paysages que j'avais vu côté algérien. Et on a essayé de tourner avec des acteurs algériens, respectant le dialecte algérien, le darija algérien, l'architecture, les bâtiments et les vêtements algériens pour respecter la géographie, l'histoire de l'Algérie. Mais le tournage s'est déroulé au Maroc et c'était 7 semaines ou 8 semaines d'aventure et de bonheur, parce que tourner dans un désert, c'est jamais très facile, c'est assez imprévisible, il peut faire très chaud, il peut faire très froid. C'était assez éprouvant physiquement, enfin notamment surtout pour les acteurs, parce qu'un réalisateur c'est quand même assez protégé, il n'y a pas à marcher pendant des heures, et c'était un moment passionnant. Moi, j'ai adoré ce tournage.
À quel moment de l'année vous avez fait le tournage?
On a tourné en novembre. Le tournage était au même moment que l'histoire était censée se passer. C'était marrant.
Octobre-novembre.
Oui, la guerre d'Algérie se déclenche avec la Toussaint Rouge, Toussaint 54, et on a tourné à la Toussaint 2013, et on a fini 2 mois plus tard. Donc c'était en hiver, et il faisait assez froid. Donc ce sont des paysages avec très très ensoleillés, et malgré tout où il peut faire très froid. Et voilà, c'est pas forcément l'Algérie telle qu'on se la représente, avec de la neige sur les cimes, etc.
David Holofane, un mot sur le casting d'Aru, c'est le personnage de Viggo Mortensen.
Oui, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est de travailler effectivement avec Viggo Mortensen et avec Reda Kateb qui joue Mohamed. Dans le cas de Viggo Mortensen, le film a été difficile à produire parce que la guerre d'Algérie n'est pas le sujet le plus facile à produire en France. C'est pas un film, je dirais, attendu. Et donc le film a mis du temps à se faire, mais une fois qu'il s'est fait, j'ai eu la chance extraordinaire de vraiment travailler avec les gens dont je rêvais. Dans le cas de Viggo Mortensen, c'est son visage m'a aidé à écrire le film. Parce que dès que j'ai lu cette nouvelle, je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments de western dans la nouvelle de départ, un prisonnier escorté, un paysage, une nature grandiose et hostile, ce thème de la loi, entre la loi tribale et la loi des Blancs. Enfin, il y a beaucoup d'éléments communs avec avec les westerns des années, les westerns d'Arthur Penn ou de Peckinpah ou de
John Ford.
Anthony Mann ou John Ford encore avant, oui. Et le visage de Viggo Mortensen m'a aidé artificiellement à écrire le film dans cet esprit-là du western. Et quand j'ai appris qu'il parlait français, je ne le savais pas, parce que c'était une sorte d'aide comme ça, artificielle et abstraite. Là, j'ai dit au producteur qu'il fallait absolument essayer de lui envoyer, mais voir si ça lui plaît, et ça a été le cas en fait. Là. Donc le casting a été extrêmement court, parce que j'avais un rêve, c'était Viggo Mortensen, on lui a envoyé le projet, il a demandé à voir mon premier film, une semaine plus tard, et une semaine plus tard, il demandait à me rencontrer, et il trouvait que le projet était intéressant. Je pense que c'est quelqu'un je sais que c'est quelqu'un qui d'une part s'intéresse beaucoup à la littérature, qui est poète, éditeur lui-même, et qui aime beaucoup Albert Camus, donc je pense qu'il y avait une attention particulière de sa part à ce projet-là, et en plus le projet lui a plu. Et pour moi, c'était une chance extraordinaire, parce que c'est un acteur extraordinaire, et parce que Ce qui me semblait intéressant dans ce personnage de Daru, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment d'identité claire. Il a une identité brouillée et complexe et douloureuse. Et Viggo Mortensen, en plus de son talent d'acteur, il amène ça au personnage de Daru. C'est-à-dire que c'est lui-même, Viggo Mortensen, quelqu'un dont l'identité n'est pas claire. On ne sait pas s'il est argentin, on ne sait pas s'il est américain, on ne sait pas s'il est danois. Est-ce qu'il est à Hollywood ou en dehors d'Hollywood? C'est quelqu'un sur lequel les étiquettes résistent. Et je trouve qu'il amène ça à ce personnage de Daru. Daru avait besoin de ça, en fait, de cette identité un peu complexe et douloureuse que lui amène Viggo Mortensen.
Et quant à Reda Kateb, vous le connaissiez déjà, n'est-ce pas?
Oui, parce que on avait fait des essais ensemble pour mon premier film. C'était pour le rôle d'un boxeur, il ne savait pas boxer, donc on n'avait pas travaillé ensemble pour cette raison-là technique, mais il m'avait beaucoup impressionné. Il n'avait pas encore percé parce que Reda Kateb a fait une percée extraordinaire là, dans le cinéma français depuis 2-3 ans. C'était avant Le Prophète de Jacques Audiard, mais déjà il a tout le temps eu ce charisme et cette force tranquille qui font que il a percé quelques années plus tard. J'avais donc pas travaillé avec lui sur Nos Retrouvailles, mon premier film, mais je m'étais dit si Loin des Hommes sort des cartons, je lui proposerai. C'est ce qui s'est passé quelques années plus tard. J'ai eu beaucoup de chance parce que entre Viggo Mortensen, Reda Kateb, j'ajouterai aussi les musiciens, Nick Cave et Warren Alice qui ont fait la musique, là aussi, c'était un choix dont je rêvais, qui me semblait intéressant pour amener le film vers une dimension moins franco-française et plus universelle, en plus là aussi de leur talent, tout simplement. Et j'ai eu la chance que le projet leur plaise, en fait, leur parle. Donc sur les collaborateurs principaux, j'ai vraiment travaillé avec les personnes que j'admirais et dont je rêvais.
Et j'imagine que vous travaillez sur d'autres projets en ce moment?
Oui, heureusement, parce que les films mettant beaucoup de temps à se faire, là, il faut avoir quelques feux au fer. Effectivement, normalement, je vais tourner l'an prochain un film. Alors, j'ai deux projets, je ne sais pas dans quel ordre ils vont se faire, mais j'ai un film français qui s'appelle Dealer, qui a pour toile de fond le trafic de drogue en Europe, que j'espère faire l'an prochain. Et j'ai un autre projet qui s'appelle Miss Sarajevo, qui est un film en langue anglaise, produit par les États-Unis, et qu'on me propose, dont j'ai pas écrit le scénario, et qui se passe pendant la guerre de Yougoslavie dans les années 90, qui a là pour toile de fond l'éclatement de ce pays. C'est le siège de Sarajevo. Voilà, j'espère faire ces deux films, et le premier de ces deux films l'an prochain, si tout va bien.
David Holofen, j'imagine que le film a été bien reçu en France.
Alors le film en France, il est sorti, oui, il a été bien reçu du point de vue critique, c'était très agréable, malgré le fait que Camus a, je trouve, une position compliquée dans la vie intellectuelle française. Je trouve qu'il est parfois victime un peu de mépris en France, alors qu'il c'est le canul par ailleurs. Je pense que c'est les traces de son conflit avec Jean-Paul Sartre. La critique a été très positive, mais le film est sorti dans des circonstances très particulières en France, parce qu'il est sorti la semaine des attentats de Charlie Hebdo. Et que c'était pas le meilleur moment en France pour sortir un film ou pour faire quoi que ce soit, parce que les gens étaient complètement abasourdis, je l'étais moi-même. Et donc voilà, le film est sorti dans ces conditions très, très particulières. En même temps, le film avait une sorte de lien avec cette actualité-là, parce que je pense que au centre de Loin des Hommes, il y a le rapport entre le monde occidental et la culture arabe, et qu'on a retrouvé ça dans l'actualité de façon absolument tragique et dramatique, mais qu'il y avait, il y avait une sorte de lien entre les deux. Mais bon, en tout cas, il est sorti le 14 janvier en France, et c'était pas les circonstances idéales, malheureusement.
Mais je peux vous assurer que j'ai vu le film en avant-première dimanche dernier. Et c'était une salle assez remplie avec des gens qui connaissent surtout, je crois, les œuvres de Camus parce qu'ils ont peut-être la cinquantaine, la soixantaine. Et ils ont étudié Camus à l'université, je crois que durant les années 70, 80. Camus, c'était un must, comme on dit en anglais.
Oui, mais je trouve que Camus est beaucoup mieux considéré dans le monde anglo-saxon.
Oui.
Dans le monde anglo-saxon, il a été particulièrement étudié. Mais malheureusement, je ne connais pas l'Australie, mais j'ai remarqué ça aux États-Unis ou au Canada. Et effectivement, il n'est pas du tout victime du moindre mépris. Au contraire, comme vous dites, ouais, moi, je pense que la pensée de Camus est extrêmement puissante et importante. Il s'est beaucoup préoccupé justement des relations entre monde occidental et monde arabe, et c'est une question qui est devenue centrale. Et je pense que sa pensée est tout à fait pertinente et je dirais même utile à essayer de démêler les nœuds qui sont noués.
Peut-être un petit message aux Australiens francophones et francophiles qui aimeraient aller voir ce film et peut-être redécouvrir Albert Camus.
Bah, d'une part, je suis très content que le film sorte en Australie. C'est pour moi le signe que cette histoire est assez universelle et parce qu'elle intéresse des pays, des publics très, très différents. Et pour moi, c'est toujours une satisfaction. Pour le public australien, moi je vois, c'est une sorte de western déplacé, et je sais qu'il y en a eu des westerns comme ça transposés en Australie, comme la proposition de John Hillcoat. Il y en a eu d'autres en Australie, qu'il y a aussi une terre possible de western, et voilà, j'espère que ça plaira au public australien. Je ne fais pas de distinction, j'espère tout simplement que le film touchera les...
Public cinéphile.
Oui, ça s'adresse plutôt à un public cinéphile. Effectivement, c'est pas un blockbuster, mais je pense que Palace, le distributeur australien, fait très bien son travail et a fait beaucoup d'efforts pour essayer effectivement d'atteindre le public le plus large, même si effectivement c'est un film qui s'adresse plutôt à un public qui va souvent au cinéma, qui aime le cinéma.
Vous savez qu'en Australie, on a le festival du film français au mois de mars et au mois d'avril, présenté par les alliances françaises du pays. Et c'est le deuxième festival le plus important après Cannes.
Oui, j'ai vu ça. Effectivement, il y a beaucoup de... J'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de... que les films français avaient une attention particulière en Australie, peut-être grâce à ce travail-là. Et ça, c'est absolument précieux. Tous les pays n'ont pas la chance d'avoir effectivement des alliances françaises et Unifrance pour aider à faire que la cinématographie existe. Ça, effectivement, en France, on en bénéficie. Et je sais qu'en Australie, c'est particulièrement le cas. C'est une grande aide, en tout cas.
David Holofernes, un grand plaisir de vous avoir au téléphone. Merci à vous encore une fois et bonne continuation.
Merci. Merci à vous. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au/french.